Europe 1.
Votre grand journal du soir, la suite, Nathalie Lévy, avec les grandes voix qui vous entourent. Avec ce soir, Gérard Carrérou dans ce studio, Mickaël Darmon, éditorialiste politique d'Europe 1, et Aurélie Herbemont qui nous a rejoint également. Bonsoir à vous. Vous
Bonsoir.
Êtes au service politique d'Europe 1 également. Merci et bienvenue à tous. On va regarder de près ce qui s'est passé au ministère de l'Intérieur aujourd'hui, place Beauvau, puisque Xavier Bertrand a présenté ses pistes pour lutter contre les listes communautaires en vue notamment de ces municipales de 2020. Xavier Bertrand qui sera d'ailleurs à noter sur vos tablettes l'invité demain matin de la matinale de Mathieu Béliard à 8h20, invité de Sonia Mabrouk, l'ex-LR président de région des Hauts-de-France. Le régalien, c'est de cela, Gérard Carrérou, que s'empare Xavier Bertrand ?
Oui, mais moi je ne suis pas très convaincu. Alors, j'ai lu et écouté ce que dit Xavier Bertrand, je l'écouterai demain bien sûr, demain matin.
Au micro de Sonia Mabrouk.
Mais je ne suis pas convaincu pour une raison, et pas plus non plus par monsieur... Bruno Retailleau
qui sera à 19h10 l'invité de David Doucan.
Bon, ils ont des propositions intéressantes, je dirais des bonnes intentions surtout, qui sont louables. Je ne crois pas tellement à la faisabilité de ce qu'ils proposent. Et en même temps, je me dis même que, est-ce que c'est une bonne chose dans une vraie démocratie, comme la démocratie française, de légiférer pour interdire des formations des partis ? Ça a un petit côté totalitaire. Ça s'est fait dans d'autres pays, à d'autres moments de l'histoire. Je suis contre l'idée. Moi, je pense qu'il faut au contraire, on va les mettre au pied du mur, ces messieurs des partis islamistes. Il faut qu'ils sortent du bois. Il faut qu'on fasse campagne. Enfin, je dis on. Il faut que les autres partis, les autres formations fassent campagne contre eux, essayent de les débusquer et de les pousser dans leur retranchement sur Toulouse. Au lieu de faire des combinaisons après, comme souvent ça s'est fait dans certaines municipalités de banlieue, des petites combines entre les grands frères et certains partis au pouvoir, il vaudrait mieux qu'on les mette en lumière et qu'on voit et on verra ce qu'ils représentent. Et on verra ce que c'est que le communautarisme dans la société française d'aujourd'hui.
Alors, on va juste recontextualiser. Vous l'avez dit, vous-même, Gérard Carrérou, c'est effectivement Bruno Retailleau qui a déposé vendredi dernier une proposition de loi sur le sujet, sur ces listes communautaires, comment les interdire. Aujourd'hui, donc, ça se passait à Beauvau, Christophe Castaner, Laurent Nunez, la ministre de la Justice également, Nicole Belloubet, et Xavier Bertrand qui est venu faire un certain nombre de propositions, Aurélie Herbemont. Pour lui, la circulaire sans une loi, ça ne marchera pas. Il faut légiférer, modifier la Constitution.
Oui, effectivement, ça, Bruno Retailleau et Xavier Bertrand sont tous les deux sur ce créneau-là. Il faut aller très loin. Après, le gouvernement, ce qu'il dit, ça revient un peu à ce que disait Gérard Carrérou, c'est qu'en fait, interdire a priori, c'est très compliqué. Le gouvernement, tous les ministres vous le disent quand vous discutez avec eux, personne ne va arriver en disant « Bonjour, je suis à la tête d'une liste communautariste, interdisez-moi ». Évidemment, personne ne va se présenter comme ça. C'est pour ça que pour eux, il y a une vraie difficulté entre guillemets à pouvoir aborder le phénomène avant les élections. C'est pour ça que le gouvernement, lui, travaille plutôt sur des pistes a posteriori, en imaginant qu'il y ait demain des élus qui se révèlent communautaristes dans leur pratique du pouvoir. Comment est-ce qu'on peut contrecarrer ça ? Parce que, par exemple, ce que le gouvernement a en tête, c'est de travailler sur un petit peu contrôler systématiquement les arrêtés qui pourraient être pris par un maire soupçonné de communautarisme. Alors, je vais vous donner quelques exemples. Par exemple, sur les horaires de piscine aménagés, sur des menus dans les cantines. Plutôt des mesures a posteriori qu'ils regardent. Parce que ce qu'ils vous disent, c'est qu'en fait, on a le droit de se présenter aux élections en France. On est en démocratie. Donc, c'est compliqué parce qu'en plus, quelle est la définition précise ? Qui sera capable de définir clairement ce qu'est une liste communautariste ?
Exactement. Alors, Mickaël Darmon, qu'est-ce que c'est qu'une liste communautariste ? Et puis, évidemment, il y a aussi ceux qui disent que c'est très anecdotique, ces listes communautaires, qu'on en fait là tout un fromage, mais que ça n'a pas lieu d'être.
Oui, ce qui ressort aujourd'hui d'ailleurs de ce qui s'est passé au ministère de l'Intérieur, c'est évidemment une forme de malaise de l'exécutif. D'autant plus que les analyses qui sont en train de remonter des préfets, au fond, établissent qu'il n'y aura pas tant de listes communautaristes que cela, mais c'est plutôt un phénomène d'entrisme qu'ils sont en train d'identifier. C'est-à-dire que des communautés organisées vont aller voir des candidats en leur disant on vous garantit un vote, un quartier, une communauté qui viendrait donc voter pour vous, mais il va falloir s'engager sur 1, 2, 3, 4 points et là, on va arriver sur éventuellement des points problématiques. Ce qui renforce considérablement la difficulté de l'exécutif de pouvoir encore contrôler cela, ajouter à cela effectivement les dissensions qui peuvent exister ou les divergences d'analyse qui peuvent exister d'ailleurs au sein du gouvernement, ne serait-ce qu'entre la garde des Sceaux et le ministre de l'Intérieur sur l'approche vis-à-vis de ce problème. Les uns disant il faut avoir l'arrêt très volontariste, et les autres, et notamment Nicole Belloubet, disant attention, on ne peut toucher à rien, c'est très compliqué, c'est très délicat.
Alors, mais, on va s'en parler dans un instant. Des auditeurs aussi nous appellent au 3921. Aurélie Herbemont, évidemment, je vous donne la parole, ainsi qu'à Gérard Carrero et Mickaël Darmon. À tout de suite.
Vous pouvez également interpeller les grandes voix sur Twitter. N'hésitez pas, on lit vos messages avec le hashtag Europe 1. Votre grand journal du soir, c'est jusqu'à 20h. Votre grand journal du soir sur Europe 1 avec jusqu'à 19h les grandes voix autour de Nathalie Lévy ce soir. Aurélie Herbemont du service politique d'Europe 1, Gérard Carrero et Mickaël Darmon, éditorialiste politique d'Europe 1, et toutes vos réactions en direct au 3921.
Aurélie Herbemont, on se parlait juste avant. On va prendre un auditeur si vous le voulez bien, et je vous donne la parole juste après parce que Patrice nous appelle de Paris. On va le garder pour dans quelques secondes, Patrice. Donc Aurélie Herbemont, je vous redonne la parole.
Oui, ce que je voulais rappeler, c'était le moment où s'est cristallisée cette affaire des listes communautaires quand Mickaël parlait d'un phénomène assez marginal. Il faut se souvenir que le sujet émerge avec les européennes, puisque c'est cette liste-là, la liste de l'Union des démocrates musulmans français, c'est cette liste-là qui a attiré l'attention de Gérald Darmanin d'abord, de Xavier Bertrand, mais juste redonnons les chiffres aux européennes. Ils ont fait 29 000 voix dans toute la France, ce qui est très peu. Mais ce qui avait alerté la classe politique, c'est que dans certains bureaux de vote, on avait des pics, sachant que ce bulletin de vote-là, il fallait l'imprimer soi-même, ce qui témoignait d'une vraie volonté de se mobiliser pour ce parti-là particulièrement.
C'est ça. Gérard Carrero, encore un mot là sur le positionnement de Xavier Bertrand. On le voit revenir dans le jeu sur les sujets régaliens, c'est ce que je disais en préambule en quelque sorte, avec ce rôle-là, avec cette voix qui compte aujourd'hui, place Beauvau. Comment on lit, comment on décrit tout cela ?
C'est sûr qu'il avait pris du champ par rapport à sa formation, par rapport aux Républicains, et que là, sur un certain nombre de sujets, on le voit en même temps qu'on le voit qu'il revient un petit peu sur des positions qui sont plus proches de celles de ses amis républicains, on le voit aussi qu'il a un statut intéressant dans les sondages. Il est assez haut dans les sondages aujourd'hui, Xavier Bertrand. Enfin bon, tout est relatif. Non, mais dans les sondages, chez les électeurs de la droite républicaine qui cherchent désespérément
un présidentiel.
On va venir sur les sondages dans un instant. Pour l'instant, il n'apparaît pas. Un mot sur Xavier Bertrand, Mickaël ?
Oui, en fait, il essaye effectivement de coller au positionnement installé par le président de la République depuis la rentrée, c'est-à-dire le régalien pour faire vite, les sujets d'immigration et ce qu'on appelle la fameuse triangulation à droite dans le jargon des politologues et des journalistes, c'est-à-dire aller récupérer sur les sujets de la droite. Mais au fond, la véritable difficulté aujourd'hui de ce gouvernement, c'est de dire de se trouver dans une forme d'équation contradictoire en disant on doit effectivement réformer l'islam d'une certaine manière, mais on ne peut pas toucher à la laïcité. Et cela,
c'est la ligne de crête
extrêmement compliquée, et quelque part on sait qu'à Matignon on est en train de réfléchir à comment sortir de cette contradiction au moins intellectuelle sinon politique.
Alors Xavier Bertrand, en tout cas, était à Beauvau tout à l'heure, il sera demain matin sur l'antenne d'Europe 1. Rendez-vous à ne pas manquer à 8h20, l'invité de Sonia Mabrouk dans la matinale de Mathieu Béliard, le président de la région Hauts-de-France, ex Les Républicains. Les Français qui prévoient un duel Macron-Le Pen en 2022, bis repetita, permettez-moi l'expression, bis repetita. Il y a eu un sondage il y a 10 jours de cela, nouveau sondage dans le Figaro. Aujourd'hui, on est à 30 mois de l'élection présidentielle. On aime bien déjà les sondages, on sait très bien que cela ne veut rien dire. C'est une photo, évidemment, à l'instant. Évidemment, on voit ce même duo, Marine Le Pen face au président sortant, Emmanuel Macron, Gérard Carrero.
En tout cas, il y en a au moins deux qui sont d'accord pour ce duel-là, c'est-à-dire pour refaire le match. Ouais. C'est évidemment le président de la République d'un côté et c'est Marine Le Pen de l'autre. Elle jubilait l'autre jour à l'Assemblée quand Édouard Philippe parlait d'un éventuel débat prochain, etc. Elle se revoyait déjà. Mais c'est arrivé dans l'histoire. Alors, on dit c'est trop loin et tout ça, mais c'est arrivé déjà dans l'histoire. En remontant un peu l'histoire de la République, qu'on a des remakes comme ça. Hein, on a eu quand même, on avait eu Giscard Mitterrand en 74 et on a eu Giscard Mitterrand en 81. On avait eu Chirac en 81 face à Mitterrand et on a eu Mitterrand-Chirac une fois après. Donc ça peut arriver. Allez-y Aurélie.
Mais depuis 88 quand même, si on regarde toutes les présidentielles, généralement 2 ans et demi avant, on n'a absolument pas l'affiche du second tour. Ça marche quasiment sur toutes les présidentielles depuis 88.
Mais ça peut marcher pour une seule raison. Et d'ailleurs on le verra. Est-ce qu'il y a une nouvelle... Autrefois, on disait la France est bipolaire. Mmh. Il y a d'un côté la gauche, de l'autre côté la droite. Et on avait à chaque présidentielle un grand candidat de gauche, un grand candidat de droite. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a une nouvelle bipolarisation avec d'un côté un candidat du Front National et de l'autre côté un candidat du centre-centre-droit ? C'est ça la question qui est posée.
La question qui est posée est ce duel qui semble programmé, Michaël Darmon, avec des oppositions de droite et de gauche qui dénoncent même la stratégie la élyséenne de se mettre comme ça dans une reddition du second tour de 2017.
Oui, mais en même temps, en petit comité, Emmanuel Macron n'arrête pas de dire à ses équipes « Arrêtez de tirer des leçons universelles et définitives chaque jour ». Parce qu'en réalité, il faut aussi se remettre tout simplement, et Aurélie vient de le rappeler très justement, dans le précédent quinquennat. Qui savait, qui pouvait imaginer en 2014, lorsqu'on disait tous « Ce sera Manuel Valls, candidat à la présidence de la République,
Juppé, quasiment élu.
Qui pouvait, en 2014, imaginer que l'ancien secrétaire général adjoint de l'Élysée serait donc président de la République. Donc,
à part Mme Macron, je crois que...
À part peut-être lui-même, mais ça, il ne l'avait pas encore susurré. Donc, en fait, l'idée, c'est qu'il va falloir quand même être prêt à être surpris, parce qu'en général, c'est ce qui se passe souvent, et depuis surtout maintenant quelques années.
On s'en reparle dans un instant. Patrice, qui nous appelle de Paris, évidemment, un auditeur. On va vous donner la parole, Patrice. Restez avec nous, à tout de suite.
Pour interpeller les grandes voix, c'est le 3921. Ça se passe aussi sur Twitter avec le hashtag Europe 1, votre grand journal du soir avec Nathalie Lévy, jusqu'à 20h. Votre grand journal du soir sur Europe 1 avec Nathalie Lévy, entourée des grandes voix. Ce soir, Aurélie Herbemont du service politique d'Europe 1, Gérard Carrérou et Michaël Darmon, éditorialiste politique d'Europe 1. Et toutes vos questions, vos réactions en direct au 39-21.
À 30 mois de l'élection présidentielle, Emmanuel Macron et Marine Le Pen se préparent à un possible remake de 2017. C'est en tout cas le résultat d'un nouveau sondage Le Figaro. Bonsoir Patrice, vous nous appelez de Paris. Merci à vous.
C'est ça, oui. Bonsoir madame, bonsoir messieurs les grandes
bonsoir,
voix.
Bonsoir monsieur.
Y compris la dame qui adore. ce que j'écoutais justement votre discours et le fameux sondage que j'ai entrevu, et c'est juste une réflexion, me revient à ce que j'avais vu entre les deux tours de 2017. C'est une affiche qui disait « Votez blanc, votez Macron au second tour ». C'est voter Marine Le Pen en 2022. Ça paraissait assez étrange, mais en y réfléchissant de près, je me demande si ce n'est pas ce qui se fait, ce qui se passe. Et c'était tout.
Michaël Darmon, alors.
En fait, la question qui est sous-tendue, hein, parce que dit effectivement l'auditeur, c'est-à-dire, est-ce que la proposition effectivement de rassemblement contre Marine Le Pen, que peut faire le camp d'Emmanuel Macron en 2022, est-ce qu'elle va être suivie à nouveau? C'est ça la grande difficulté, sachant qu'une partie de l'électorat actuellement, parce que tout peut encore bouger, mais actuellement, une partie de l'électorat du premier tour d'Emmanuel Macron, essentiellement venu de la gauche, se dit déçu. Et donc, il faudra être capable de les remobiliser éventuellement si ce match se profile à nouveau. Chose qui n'est pas certaine, hein, parce qu'il faut une fois de plus s'attendre à être surpris. Il y aura, après les élections municipales, une mutation, une accélération des lignes géopolitiques et politiques surtout. Et en réalité, on verra quelle offre va surgir, notamment à droite.
C'est ça.
LR ne va pas rester sans proposition, sans offre politique. Et là, on verra dans quelle mesure ça peut bousculer ou pas le jeu.
Et Bruno Retailleau, président LR du sénateur, sera là pour répondre à ces questions à 19h10 au micro de David Doucan, normalement. Mais justement, c'est toute la quadrature du cercle dans ce duel qu'on voit comme ça déjà s'amorcer. C'est aussi de voir que les Français prédisent pour 2022, se disent pour 2022 qu'ils n'en veulent pas à 72%. À 72%, ils rejettent ce face-à-face. Donc, qu'est-ce qu'on se dit? Parce qu'en même temps, l'offre à droite, ils n'en veulent pas non plus. L'offre à gauche, on a vu ce qu'ils en ont fait aux élections européennes.
Effectivement, les gens sont déçus. Ils sont déçus pour une bonne part. Ceux qui avaient voté au deuxième tour pour le président de la République, une partie d'entre eux sont déçus. Ceux qui ont voté pour Marine Le Pen... Bon, effectivement, il y en a qui ont dit après le débat, notamment après le débat de l'entre-deux-tours, qu'ils ne voteraient plus jamais pour elle. Bon, entre-temps, elle a refait un petit peu le parcours. Mais c'est sûr que les gens aimeraient mieux une autre affiche. A priori, ils aimeraient mieux une autre affiche. Ouais. Mais en même temps, s'ils se rendent compte qu'il n'y a pas d'autre affiche, eh ben ils feront comme quelque part, ils suivront le rail.
Sauf que pour l'instant, effectivement, et c'est intéressant de voir ces sondages, parce qu'à la fois, les gens ne veulent pas de cette affiche, et en même temps, pour l'instant, le paysage politique, hormis Emmanuel Macron et Marine Le Pen, est sinistré. La droite ne s'est toujours pas rétablie, le PS ne s'est toujours pas rétabli, les Verts, pour l'instant, bon, ils ont fait un bon score aux Européens, mais il faut transformer l'essai.
Voilà.
Et pour l'instant, dans l'imaginaire des Français, aucune autre personnalité à part Macron et Le Pen ne sont projetées comme présidentiables. Et c'est tout l'enjeu pour les deux ans qui viennent pour les différents partis d'opposition. L'étoile de Jean-Luc Mélenchon a pâli ces dernières années après son score de 18% à la présidentielle. Là, on le voit, il est mesuré à 12-13%. Donc pour l'instant, voilà, c'est ce résultat entre guillemets que donnent les sondages, parce que pour l'instant, on ne voit pas d'autres personnalités émerger ailleurs.
Mickaël Darmon.
C'est vrai que la carte va bouger à partir des municipales, des experts, tout ceux qui sont très penchés sur les mécaniques à l'œuvre pour ce scrutin municipal prévoient une poussée à la fois des Verts et à la fois du Rassemblement national dans ce scrutin municipal qui sera au fond crucial pour également Emmanuel Macron, parce que ce sera le vrai scrutin, premier vrai scrutin national. Ça, c'est effectivement le premier point. Deuxième point, c'est le débat qui existe actuellement autour de en ce qui concerne la stratégie à adopter autour d'Emmanuel Macron. Certains disent notamment, les puristes de 2017 disent qu'il faut se réorganiser sur la rupture, la disruption de 2017, rester vraiment dans la pureté des marcheurs. Et d'autres disent non, il va falloir tenir compte du fait que maintenant, on a eu 5 ans au pouvoir, il va falloir maintenant rassembler, organiser une coalition avec toutes les sensibilités pour faire vite aller des jupéistes au pôle social-démocrate et présenter une forme, au fond, d'esquisse d'un premier parti démocrate à la française. C'est une option qui se dessine de plus en plus. Et ce débat théorique n'est pas encore tranché, mais on voit bien qu'il est dans toutes les têtes.
L'option, elle est là, mais il n'y a pas eu beaucoup de résultats. C'est-à-dire qu'on n'a pas vu, beaucoup. On a eu quelques prises de guerre après l'élection présidentielle, dans le camp macroniste, un certain nombre de ministres d'ailleurs, et le Premier ministre, à commencer par lui. Mais on n'a pas vu pratiquement
et la grande difficulté,
ce mouvement,
c'est à gauche,
ce grand rassemblement, on ne l'a pas vu du tout.
À droite, on voit bien, d'ailleurs, on l'a vu à chaque remaniement ministériel, les solutions, souvent, en termes de personnalité, viennent de la droite. La grande difficulté est d'organiser un pôle gauche, entre guillemets, de la Macronie, qui soit efficient, efficace, nouveau.
Et oui, c'est Ségolène Royal, par exemple. Ouais. Dans le sondage du Figaro, elle arrive en deuxième position, dans les potentiels candidats de la gauche à la prochaine, derrière Cazeneuve. Effectivement, c'est intéressant de voir.
D'ailleurs, elle en fait son miel, puisque maintenant, chaque fois qu'elle prend la parole, c'est pour dire c'est son
pari d'oblige. Et pour cause. Bon, merci beaucoup, les grandes voix. Merci Gérard Carrero, Aurélie Herbemont. Bienvenue et à bientôt. Très.
À bientôt.
Et Mickaël Darmon, on vous retrouve évidemment régulièrement à cette heure-ci. Et aussi le dimanche. Quelle heure?
10h, 10h, 11h, comme tous les dimanches.
C'est bien de le rappeler. Merci à vous. Europe 1.